En vérité, c'est une expression dont il faut se méfier. Je dis pas ça parce que c'est le titre du nouveau spectacle de Dieudonné, en vérité. Je vous rassure, pas de complot, pas d'attaque ou de perfidie mal placée dans cette émission. Je vous dis ça parce qu'à chaque fois que cette expression est prononcée, en vérité, il y a chez celui qui le dit, et dans ce qu'il ou elle dit, quelque chose de très suspect. Celui qui dit « en vérité », souvent en début de phrase, proclame non seulement que ce qu'il va dire est incontestable, mais aussi que sa parole et sa pensée sont objectives, indiscutables, universellement reconnues. C'est du génie rhétorique, en fait, hein, une façon d'imposer son autorité, de s'autoproclamer maître du sujet, de clore le débat. Si je prends la peine de dire « en vérité », c'est que les autres sont plus ou moins dans le mensonge, contrairement à moi, et que la seule chose qu'ils peuvent me répondre, c'est « amen ». D'ailleurs, vous savez que le mot « amen » vient de l'hébreu aman, et qu'on peut le traduire par en vérité. En vérité, je vous le dis, cette expression renvoie à des codes, des règles, des textes auxquels on est sommé de se plier. On la trouve autant dans la religion que dans le droit ou la politique. En vérité, ça veut dire un point c'est tout, et ça doit pas faire question. Sauf dans Boomerang, évidemment. Vous savez, mon goût pour l'insubordination, mon métier c'est de poser des questions, ce qui fait que je ne l'emploierai plus jamais, en vérité, cette expression.
Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui s'interroge sur la vérité, pas seulement en littérature, mais aussi en droit, dans le domaine de la justice. Son livre, L'Empreinte, dans une très belle traduction d'Héloïse Esquier, vient d'être récompensé par le prix du livre étranger France Inter. JDD, on en est très fiers. À travers un récit entre l'autobiographie, l'enquête et le thriller, elle nous raconte comment sa rencontre avec un tueur pédophile va éclairer et bouleverser le regard qu'elle porte sur sa propre histoire. C'est à la fois haletant et bouleversant. Bonjour, Alexandria Marzano-Lesnevich.
Bonjour, good morning.
Merci beaucoup d'être là. Pour vous, avant toute chose, est-ce que la vérité existe?
You know, I think it's important to separate out truth and facts.
Je crois qu'il est important de démêler d'une part la vérité et ensuite les faits. Ce qui m'a intéressé à travers ce livre, c'est d'explorer la manière dont le système judiciaire aux États-Unis va fournir une trame, une histoire, une trame que tous vont interpréter comme étant la vérité, alors qu'il ne s'agit que d'une interprétation. On traite d'une histoire qui va avoir le timbre d'un procès judiciaire donc qui est censé représenter la vérité. Mais il y a tellement de choses derrière cela. Les faits sont là, on peut les connaître, mais selon les individus, il y aura différentes interprétations de ces faits. Chacun aura sa vérité. Et la vérité s'appuie sur l'émotion, le corps, l'expérience, la subjectivité. C'est tout cela qui façonne la vérité, ou alors l'angle, le point de vue, ce qu'on appelle dans la littérature le point de vue du narrateur. Donc il y a d'un côté le système judiciaire et puis tout le côté familial. Et vous savez qu'il y a des frères et sœurs dans une famille qui vont chacun également avoir leur point de vue sur l'histoire familiale, leur expérience unique, personnelle. Je voulais explorer toute cette complexité de ce qu'est la vérité.
Quand est-ce que vous avez compris, Alexandria Marzano-Lesnevich, qu'un procès, par exemple, c'était pas une quête vers le vrai, mais plutôt une compétition entre plusieurs versions des faits, entre plusieurs histoires? En fait,
c'est exactement cela, oui. C'est une compétition entre différentes histoires. J'ai compris ça quand j'étais à la fac de droit.
In law school, to go through that that realization.
D'ailleurs, c'était passionnant de comprendre et de faire ce chemin, ce cheminement quand j'étudiais le droit. Et j'ai eu envie de creuser cela plus avant, d'explorer cette question, plutôt que de prétendre que le résultat d'un procès devait passer pour la seule vérité unique.
Il faut nous raconter quand vous vous êtes intéressé pour la première fois à l'histoire de Ricky Langley.
Yes, I'm quite opposed to the death penalty.
Oui, vous savez, je suis opposée à la peine de mort. Et aussi longtemps que je me souvienne, j'étais contre la peine de mort. Je me rappelle quand j'ai découvert que ça existait, j'étais enfant. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de tous les petits Américains. Ils ne sont pas frappés par ce choc de comprendre que la peine de mort existe. Et moi, ça m'a animée depuis que j'étais petite. J'étais contre. Donc, pour lutter contre la peine de mort, je suis entrée à la fac de droit de Harvard. Et j'ai fait mes armes au bout d'une année. J'étais stagiaire dans un cabinet d'avocats, celui que j'évoque dans le livre. Et j'ai regardé la vidéo des aveux de ce Ricky Langley. J'avais 25 ans et je me disais, ah ben, enfin je suis arrivée, je vais faire ce que j'ai toujours désiré faire, me consacrer au droit et lutter contre la peine de mort. Et puis je regardais cette vidéo, Ricky parlait du meurtre de Jeremy Guillory. Il évoquait aussi les abus sexuels, les attouchements qu'il avait commis sur d'autres enfants. Et tout à coup, alors que je regardais cette vidéo, je n'avais plus 25 ans, j'étais retournée à l'enfance et j'ai senti les mains de mon grand-père sur moi parce que j'ai été victime d'attouchements, d'abus sexuels de la part de mon grand-père. Et alors même que je me suis dit, enfin, je vais pouvoir combattre la peine de mort, je me suis dit, mais je veux qu'il meure, ce type. Et peu après, j'ai appris que Lorelai Gilroy, la mère de la petite victime, lors du procès, s'était exprimée contre la mise à mort de Ricky Langley. Et ça, ça m'a fascinée. C'est ça qui a démarré toute cette quête.
Ce livre, qui est tout aussi fascinant, Alexandria Marzano-Lesnevich, L'Empreinte, naît donc du croisement de ces deux histoires. Celle de Ricky Langley, le coupable, le tueur, et la vôtre, celle d'une petite fille victime, vous le dites, des assauts sexuels de son grand-père. Pourquoi fallait-il à tout prix que vous la racontiez? Pourquoi est-ce que la raconter est devenu un besoin presque vital pour vous?
I think that is the question of art, right? Why are we
compelled? C'est toute la question. Pourquoi on est artiste? Pourquoi on fait de l'art? Pourquoi on écrit? Ce qui nous motive. Je crois que j'avais pas le choix. Les mots venaient tout seuls. Après avoir étudié le droit, j'ai étudié la littérature, l'écriture. L'écriture de fiction. Et par exemple, alors que j'écrivais, j'évoquais ce petit fusil en plastique de couleur bleue, et cette image ne cessait de s'imposer à moi. Ce petit fusil de la victime, et ça me disait que mon subconscient trouvait là qu'il y avait quelque chose à creuser, à explorer. Et ça, le résultat, c'était ce livre.
Parfois, à vous lire, Alexandria Marzano-Lesnevich, on pourrait croire que l'objectif du livre, ça a été pour vous une tentative de trouver un chemin vers le pardon. Ce mot « pardon », dont vous dites que c'est un mot trop simple. Pourquoi?
Oui, j'ai dit cela. C'est un mot fascinant, le pardon. Mais j'ai découvert que personne ne s'entend sur ce qu'il signifie, ce qui en soi est déjà très intéressant.
I had felt great pressure as a child to forgive my grandfather. The phrase in the US.
J'ai ressenti beaucoup de pression mise sur moi pour pardonner à mon grand-père. Parce qu'il y a une expression en anglais qui dit on oublie, on pardonne et on oublie. Or, je ne pouvais pas oublier. Le titre en anglais de mon livre, c'est The Fact of a Body, le fait d'un corps. Tout était arrivé dans mon corps et pourtant, il y avait une chape de plomb, un silence total au sein de la famille sur ce qui m'est arrivé. Je crois que le pardon exige une certaine reconnaissance, une compréhension et nécessite de parler de ce qui s'est passé avant de pouvoir pardonner. Souvent, on sort ce mot trop facilement. J'ai été frappée par les déclarations de la mère de la victime, Lorelai. Elle a témoigné en faveur de Ricky. Et certains avocats, la presse, présentaient cela un petit peu comme si elle avait pardonné à Ricky d'avoir tué son fils. Or, elle a bien précisé, elle a tenu à le préciser, qu'elle ne lui pardonnait pas, mais elle ne voulait pas qu'il meure. Et ça, c'était déjà beaucoup plus complexe et intéressant. Donc, j'ai voulu essayer de comprendre que mon grand-père était à la fois celui qui avait abusé de moi, qui m'avait tellement nui, fait tellement de mal, mais c'est aussi le premier artiste que j'ai rencontré, celui qui m'a appris à dessiner, celui qui m'a façonné comme écrivain, puisque bien sûr il a une influence sur ce que je suis devenue. Quant à Ricky Langley, le tueur, ben c'est un homme, et c'est un assassin, et c'est un pédophile. Mais c'est un homme, il y a toute cette dialectique, cette navette qu'il faut faire. Certaines personnes m'ont dit que quand on rassemble ces deux éléments, c'est ça qui donne le pardon. Mais je préfère utiliser le mot empathie.
On va reparler évidemment, Alexandria Marjanović, de tout cela juste après un point sur l'actualité culturelle de ce vendredi 11 janvier. Croyez-moi, dans cette séquence, il n'est pas toujours question de vérité, de justice, de pardon, encore moins d'empathie. Mais bon, passons.
Hollywood and Highland, it's the Oscars.
100 mètres vanne libre après le retrait de Kevin Hart et la polémique liée à ses tweets homophobes. La cérémonie des Oscars se passera de présentateur. C'est le très renseigné magazine Variety qui vient de l'annoncer. Et c'est la première fois depuis 30 ans que la grand-messe du cinéma américain se fera 100 mètres de cérémonie. À la place, les organisateurs prévoient de mettre en avant la musique et notamment les prestations des chanteurs qu'on a vus à l'écran cette année, comme Lady Gaga, Dolly Parton ou Kendrick Lamar, show devant. La BIAC, d'abord la Biennale internationale des arts du cirque, commence aujourd'hui à Marseille et dans toute la région PACA. Trapèze, spectacle équestre, danse ou suspension capillaire, mon rêve. La manifestation dépoussière la tradition circassienne en invitant pas moins de 65 compagnies venues des quatre coins du monde. On pourra notamment y voir Grande, le spectacle d'acrobatie délirante et pop de Vima Laponce et Tsikara Arrivel qui avait triomphé au 104 l'année dernière. Ça, c'est d'enfer.
Ça devait être un de mes premiers grands chocs. Ah, on peut faire ça au cinéma. En fait, on peut faire ce qu'on veut au cinéma.
Ce qu'on veut, à condition d'avoir les moyens, la romancière Marie Dariussec a été nommée présidente de la commission d'avance sur recette. Elle remplace ainsi une autre brillante femme de lettres, l'éditrice Teresa Crémisi. Organisme de soutien à la création ciné, créé par André Malraux en 1959, l'avance sur recette distribue des aides financières aux jeunes cinéastes avant ou après la réalisation d'un film. Récemment, des œuvres comme 120 battements par minute de Robin Campillo ou Climax de Gaspard Noé ont ainsi été soutenues. Et cette fois, c'est fait, Moret. Après des semaines de spéculations et de provocations, le rappeur Booba a annoncé hier sur sa page Instagram qu'il allait affronter son acolyte de clash, Kaaris, sur un ring à Bruxelles le 5 avril prochain dans une salle de 18 000 places. Les deux hommes s'affronteront lors d'un combat de boxe en catégorie lourd-léger dans les règles de l'art. En octobre dernier, les deux avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour une bagarre à l'aéroport d'Orly cet été. Cette fois au moins, ce sera encadré. Et l'américaine Alexandria Marjanović, lauréate depuis hier du prix du livre étranger France Inter JDD pour l'empreinte, invitée de Boomerang ce matin. Donc ce récit qui témoigne de votre passion pour le droit, hein, puisqu'on le disait, c'est alors que vous êtes en stage dans un cabinet d'avocats que vous découvrez l'existence de ce Ricky Langley, pédophile condamné à mort. Votre passion pour le droit, comment est-ce qu'elle est née, Alexandria?
Both my parents are lawyers.
Mes deux parents étaient avocats.
My first love for the law, I think, actually was about stories.
Et mon premier amour pour le droit, je crois qu'il a été déclenché par le fait que l'étoffe de tout ça, ce sont des histoires. Et vous savez, dans le cabinet de mon père, il conservait là des preuves de cas qu'il avait défendus, de procès célèbres. Il y avait par exemple des douilles ou un corset suite à un accident de voiture, etc. C'était des pièces à conviction. Et moi, quand j'étais dans le bureau de mon père, je m'amusais avec ça. Je jouais avec les douilles qui étaient les témoignages de meurtre. Et donc, j'ai vu que tout cela, c'était un tissage d'histoire.
Ce père qui est à la fois une source d'inspiration, mais aussi une source de déception. Alexandria, plusieurs années après qu'il a pris connaissance des abus sexuels dont vous et votre sœur étaient victimes, vous l'entendez parler de ce traumatisme comme si ça n'avait jamais existé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Oh, the erasure was always very hard for me. And in some ways, I think
oui, ce déni, ça a toujours été très difficile pour moi. Et ce silence. Et c'est cela qui m'a poussé à essayer de comprendre pourquoi des histoires très différentes étaient exprimées par les différents membres d'une famille. Dans le cas de Ricky Langley, eh bien, il y a eu 3 procès. Il devait même y avoir un 4e procès, mais qui doit encore se tenir, qui ne s'est pas déroulé. Et ce qui m'a frappé, c'est que bien que chacun soit d'accord sur ce qui s'était, sur les événements, eh bien, le fait de retracer tous les événements qui avaient précédé, tout cela était vu différemment. Même chose dans une famille, chacun raconte sa propre histoire familiale. Et mon père, pour des raisons qu'on peut comprendre sur le plan émotionnel, bien que c'ait été douloureux pour moi en tant qu'enfant, mais il préférait raconter l'histoire, le récit familial, en excluant cette partie-là, en la taisant. Or, tous ces faits, ils s'accumulent dans le corps. Ils sont tracés sur le corps et je ne pouvais pas en parler.
D'ailleurs, quelle a été la réaction de vos parents lorsqu'ils ont appris que votre grand-père abusait de vous?
D'abord, ils se sont assurés, ils ont fait en sorte qu'il ne soit jamais plus seul avec nous. Donc, les abus sexuels ont cessé. Mais par ailleurs, ils nous ont empêchés d'en parler, interdits.
Et qu'est-ce que vous en avez fait de ce silence, justement ?
Quand on est
enfant et qu'on grandit avec cela qui pèse sur vous, c'est difficile d'en faire quelque chose parce que c'est l'air même qu'on respire. Tout devient ça. Ça m'a beaucoup pesé, ce silence. Mais il y a eu des collisions. Des échanges qui se sont faits quand j'ai regardé la confession, les aveux de Ricky, ce que j'avais ressenti, la collision entre le passé, le présent, ces histoires qui s'entremêlaient, la chape de plomb que je ressentais quand j'étais enfant et la manière dont ce souvenir refusait d'être réduit au silence dans mon corps. Ce souvenir est encore très très présent en moi et il a laissé ses marques sur mon corps. Et il se rappelle à moi de manière insistante.
On va reparler de silence, d'écriture, de pardon, juste après un titre de pardon, justement. Je sais que vous l'aimez bien, Nirvana, All Apologies, sur l'album In Utero en 1993. Vous êtes sur France Inter avec la lauréate du prix du livre étranger France Inter, JDD, Alexandria Marzano-Lesnevich, dont vous allez beaucoup entendre parler. Son livre s'appelle L'Empreinte. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, de prime abord, elle est très discrète, mais dès qu'elle commence à parler, son visage s'illumine. Et on comprend que pour rester des heures en sa compagnie, elle est celle qui vous fait rater le bus, vous savez, celle avec qui vous pouvez rester une journée entière à discuter à la machine à café au lieu de faire ce que vous avez à faire. Celle qui transforme un dîner qui promettait d'être rasoir en un moment d'exception, avec ses cheveux courts, vous savez, ses petites lunettes, son costume. Aujourd'hui, Alexandria Marzano-Lesnevich, invitée de Boomerang ce matin pour son livre L'Empreinte, à qui l'on vient de remettre le prix du livre étranger France Inter JDD, un livre que vous avez mis de nombreuses années à écrire, plus de 9 ans, je crois. Parce que la question que pose votre livre, c'est aussi celle de ce qui ne peut pas être dit. Comment on fait pour raconter ce qui ne se dit pas, Alexandria Marzano-Lesnevich?
Oh yes, I think maybe one of the central questions of the book.
Oui, je crois qu'une des questions, c'est une des questions centrales, en effet, de ce livre. Mais vous savez, je crois que justement, on écrit beaucoup en réponse au silence. L'écriture, c'est un acte de parole, c'est une prise de parole. Voici mon récit, voici ce que j'ai vécu, voici ma version. Une bonne partie de ce livre tournait autour, gravitait autour de l'indicible, en effet. Et mon inconscient me poussait à écrire différentes scènes, différents moments. Et tout cela a fini par former une quête pour essayer de dire l'indicible, en effet. Et j'avais l'impression d'être sur un chemin de découverte à travers tout ce processus de déchiffrement. Bien sûr, j'ai toujours su ce qui m'était arrivé. J'ai su, et je me souvenais. Mais ce qu'il y avait au cœur de tout cela, toute cette poursuite, cette quête effrénée pour essayer de comprendre et savoir pourquoi j'écrivais ce livre, c'était une découverte.
C'est une histoire dans laquelle, c'est ce qui m'a beaucoup interrogé, il est sans cesse question de corps. Alexandria Marzano-Lesnevich, de corps disparus, de corps blessés, de corps oubliés, de corps morts, de corps enfermés, de corps qui se souviennent, d'autres qui oublient, d'autres qui se défendent, d'autres qui agressent, de corps qui se retiennent, d'autres qui ne se contrôlent pas. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, un corps pour vous?
You know, this question is very visceral for me now because.
Oui, cette question me taraude actuellement. Il y a 2 ans, j'ai passé l'été à disséquer un corps humain.
Very, very real. It's a long story how I ended up doing that.
Bon, pourquoi je me suis trouvée à faire cela, c'est une longue histoire, mais bon.
Among many other things, a body is
cette dissection d'un corps. Mais vous savez, entre autres choses, le corps, c'est une archive. Entre beaucoup d'autres choses, le corps, c'est une archive.
Quand est-ce que vous êtes parvenue à reprendre possession de votre corps, de votre propre corps, qui vous a été volé quelque part?
Yes, the act of speech, actually.
En effet, je crois que la parole active, briser le silence, l'acte d'écrire m'a aidé.
And when I was a teenager,
pour cela.
And I was very enthralled to the memories that I could not articulate, that I knew, but that
et
I had
quand j'étais ado, j'étais très habitée par tous ces souvenirs que je n'avais jamais exprimés. Et j'avais un petit ami à l'époque. Je suis homosexuelle, mais je n'étais pas encore sortie du placard à l'époque, comme on dit. Et je ne sais pas comment il a trouvé cette maturité. J'évoque ce garçon dans mon livre. La nuit, je me rappelle, il explorait mon corps en quelque sorte et cela suscitait mes souvenirs, la remontée de mes souvenirs. Je me suis mise à pleurer. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et grâce à lui, c'est comme si on m'avait remise d'aplomb, comme si il m'avait rendu mon corps.
I can talk more about this if this comes
et
up,
avec la publication de mon livre, c'est devenu encore plus réel. Ça, je ne m'y attendais pas, c'était une surprise. Mais quand j'ai tenu le livre, cet objet physique, pour la première fois, j'ai compris que j'avais accordé une place à mon passé pour qu'il puisse y vivre. Donc j'avais extirpé le silence qui gisait dans mon corps et je l'avais mis entièrement dans ce livre. Et j'avais brisé ce silence. Et donc maintenant j'ai une relation à ce silence complètement différente puisque je l'ai sorti de moi, je l'ai mis dans mon livre. Et je ne m'attendais pas à cette libération, ce moment libérateur, c'est magnifique.
J'aimerais, si vous le voulez bien, lire un passage de L'Empreinte, Alexandria Marzano-Lesnevich, un passage où vous vous rendez sur la tombe de vos grands-parents. Ce que je ressens, debout sur la pelouse de leur tombe, c'est pas une libération, pas tout à fait. C'est du chagrin, mais pas un mauvais chagrin. J'entends les voitures passer sur la route un peu plus bas. Ma grand-mère est enterrée à côté d'un secret. Mon grand-père est mort avec son identité indestructible. Je peux pas dire que je les pardonne. Seulement que le pardon est un mot trop simple. Ils ont contribué à ma venue au monde. Ils ont commis des méfaits terribles. Je dois y aller maintenant. Ma voix a un son étrange, tremblant dans le silence. J'ai toujours trouvé les morts dans les histoires qu'ils laissent derrière eux, pas dans la vérité glaciale de leur tombe. Mais j'ai jamais pu dire au revoir à mes grands-parents lorsqu'ils étaient en vie, car tous les adieux que j'ai pu faire n'étaient en fait que des mots qui se substituaient à tout ce que je pouvais pas dire. Je vais y aller pour finir de raconter cette histoire. Voilà, maintenant ils savent. Je raconte cette histoire. Je veux que ces mots soient les derniers que je leur adresse. Que là où était le silence soit la parole. Que là où étaient les secrets, j'ouvre la voie à la complexité de la vérité. Tous les adieux que j'ai pu faire n'étaient en fait que des mots qui se substituaient à tout ce que je ne pouvais dire. Ce que vous pointez là, Alexandria Marzano-Lesnevich, ce sont les limites du langage. Le fait que les mots dissimulent souvent plus qu'ils ne montrent. Dans quelle mesure écrire, pour vous, c'est d'une certaine façon réhabiliter les mots?
Oh, I think that is very much an act of writing. One of the things that I
oui, c'est ça, exactement, l'acte d'écrire. Je le crois. Ce qui m'a fait tomber amoureuse de la littérature quand j'étais petite, c'est l'idée qu'on entendait ces voix et ces réflexions à travers le temps, à travers les lieux, tous ces points de vue différents qui venaient de tous ces coins du monde. Ce point de vue, cet angle de vision et les mots qui demeurent, qui gardent leur force à travers les années, les siècles. Ce qui m'attirait, c'était cette notion de complexité. La complexité dont on se débarrasse trop aisément dans le discours public, dans les conversations familiales. On ne cesse de simplifier. On fait un narratif, un récit de la vie, mais toujours en simplifiant les choses. Ce livre, bon, j'espère qu'il est de nombreuses choses, qu'il renferme de nombreuses aspects, mais je crois que c'est avant tout un plaidoyer pour la complexité.
Et il l'est aussi dans sa forme, il faut lui rendre justice, Alexandria Marzano-Lesnevich, parce que là on en parle, et c'est le cas, comme un grand objet de littérature, mais on peut le lire aussi comme un thriller qui a quelque chose à voir avec toutes ces séries comme The Jinx ou Making a Murderer, qui cartonnent pour tous les lecteurs amateurs de ce type de littérature, de ce type de série également. Ça, c'est quelque chose que vous assumez aussi?
Oh yes, I really
oui, tout
like
à fait.
Suspense.
Moi, j'adore le suspense, les thrillers.
I knew that I was going to ask the reader to come with me to some complicated.
Vous savez, je voulais demander au lecteur d'accepter de me suivre dans ces coins reculés, complexes, sur le plan moral, etc. Donc des sujets difficiles que je voulais aborder. Je voulais prendre le lecteur par la main. Je me suis dit, oui, il faut que je les emmène. Donc j'ai réfléchi à la manière d'inciter les lecteurs à tourner les pages les unes après les autres. Je reçois beaucoup de courriels de lecteurs. Et une de mes préférées, c'est « Oh, vous m'avez empêché de dormir !»
Mais c'est moi aussi, vous m'avez pas empêché de dormir, tiens, à plusieurs moments. Merci infiniment, Alexandria Marzano-Lesnevich. Je rappelle que L'Empreinte, prix du livre étranger, France Inter JDD 2019, est publié aux éditions Sonatine, dans une traduction de Héloïse Esquier. Merci aussi à Eve Der, votre interprète ce matin, ainsi qu'à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Paul Guillotte, notre nouveau stagiaire qui fait un travail formidable, sans oublier Jean-Baptiste Audibert pour la musique. À lundi, les amis, tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Les vrais amours sont muets, tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire. Sûr que j'en serais pas là, à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter, ce qui est fait, fait, je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien.
Eddie, la merveilleuse Clara Luciani sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M. Vous m'entendez, Sonia?
On est là, Augustin, et on se retrouve lundi, tous
à
les
lundi.
Deux.
Bye. Ciao. Bye.